Fraim mesmo. Tá não? Daniel Bismuth. Et Chaim Meir, mais qui n'est pas là, il est là sans être là,
Bonsoir, Rav.
il n'est pas qualifié pour être là, vu que c'est un cours de dame. Mais il est là en tant qu'enregistreur. Alors on lui a donné un sauf-conduit. Alors, on a donc une mitzvah. Il y a encore du monde? Ah oui, c'est le raca. Voilà, bonsoir Déborah. Alors, le nouveau mois, il commence bien entendu avec la nouvelle lune. Et alors, il y a une mitzvah qui est donnée à chacun quand n'importe qui dans le clan Israël, il voit la nouvelle lune, c'est-à-dire il voit ce tout petit croissant naissant, s'il pense que c'est un croissant, le croissant de la nouvelle lune, il fonce à Yerushalayim. Le cas échéant, il est même Mechalel Shabbat pour aller rapidement à Yerushalayim. Et il se précipite au tribunal et témoigne, j'ai vu la nouvelle lune. Alors, on peut calculer la nouvelle lune, on savait calculer la nouvelle lune, donc on savait s'il était possible qu'il l'ait vu. Donc, s'il était possible qu'il l'ait vu, on va l'interroger un peu pour savoir, pour être sûr qu'il n'a pas confondu un petit nuage avec le nouveau croissant. Et une fois qu'on s'est persuadé que c'est bien la nouvelle lune qu'il a vue, et qu'il y a un deuxième personnage, un deuxième juif qui vient dire la même chose, alors le président du tribunal, du Sanhedrin, déclare, Mekoudash, le mois est sanctifié, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le premier jour du nouveau mois. Alors, là-dessus, sur cette question-là, le tribunal devant lequel les témoins ont témoigné d'avoir vu la nouvelle lune, ce tribunal est souverain, c'est-à-dire c'est lui qui décide. Ça veut dire que, par exemple, quand ça n'arrange pas le plan d'Israël, qu'aujourd'hui soit le premier jour du mois, par exemple, on n'a pas très envie d'avoir Yom Kippour juste la veille, juste le lendemain de Shabbat. Que ça nous fait des problèmes de préparation du Shabbat ou de Yom Kippour. Et donc, on s'arrange pour que ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas Erev Shabbat ou Motsei Shabbat. Et donc, si quelqu'un vient témoigner qu'il a vu la nouvelle lune du mois qui va être de Tishri, qui est le mois dans lequel il y a Yom Kippour, et qu'on se dit, ah ouais, mais si on décide selon le témoignage, alors Yom Kippour va tomber Erev Shabbat, alors le tribunal décide de ne pas déclarer le nouveau mois commencé, bien qu'on a vu la nouvelle lune, mais le tribunal ne le déclare pas commencé, il va décaler d'un jour. Demain, on dira que le nouveau mois est commencé, et donc comme ça, on s'assurera que le Yom Kippour sera Shabbat, ça ne nous dérange pas, d'accord, et ou bien un autre jour de la semaine.
C'est d'un côté, on donne un très grand sérieux, puisqu'il faut deux témoins. On dit qu'ils peuvent profaner Shabbat pour arriver plus vite. Ça donne toute l'importance
C'est
de
une
cette
importance
chose.
fondamentale, la maîtrise du temps par l'Ebné Israël, mais par l'Ebné Israël, c'est-à-dire nous ne sommes pas contraints d'adopter les lois de la nature, en quelque sorte. Nous pouvons décider, parce que ça nous arrange, décider de ne pas suivre exactement les lois de la nature. Bien sûr, on ne peut pas décaler de 4 jours et dire, quand on a la pleine lune dans nos tailles, au moins commencer, mais on peut décaler.
Puisque cette maîtrise de ce Elle se fait au dénouement de Shabbat, avec toute cette vie de Shabbat, de
Pas du
l'importance.
tout. C'est Shabbat.
Il ne met pas un Shabbat.
C'est pas au détriment de Shabbat. Kippour peut tomber Shabbat.
Non, je ne vois pas qui peut. Je parle de témoin qui doit courir et
Ah
de.
oui, ben, oui, c'est pas au détriment du Shabbat. C'est au service de quelque chose. C'est une mitzvah. Si vous voulez, il y a des mitzvot où tout le fonctionnement du korban de Shabbat qu'on amène Shabbat, on fait la shrita et on va griller la viande, etc. Pendant Shabbat,
Mais
on va être mechalel Shabbat.
puisque le Sanhédrin peut après adapter la
Voilà.
date à ce moment-là, pourquoi ne pas dire bon, c'est Shabbat, je respecte les Shabbat, et puis ça donne une légèreté d'un côté, pourquoi ne pas la donner de l'autre?
Justement pas. D'abord, on ne veut pas que ça soit Motsé Shabbat, parce que ça veut dire qu'il faut se préparer Shabbat pour Yom Kippour. Ça va pas. C'est pas respecter le Shabbat de se préparer pour Yom Kippour. Et donc, c'est tout. Ça n'est pas la lune qui va nous imposer le calendrier, c'est nous qui allons choisir le calendrier. Ça fait partie de ce qu'Hachem nous a donné avant même qu'on sorte de l'esclavage. Achodeshazelachem,
La
d'accord,
première
cette première phrase-là qui est le déclencheur de Pessah, quasiment, c'est une possibilité qui est donnée. Au Bnei Israël, une obligation qui est donnée au Bnei Israël de gérer le temps. Voilà. Et donc, comme pour passer de Pessah à Shavuot, il y a 50 jours, il y a la fin du mois de Nissan, début du mois d'Iyar, la fin du mois d'Iyar, début du mois de Sivan. Et à ces deux occasions-là, on ne sait pas, on ne savait pas à coup sûr si le mois allait être un mois de 30 jours ou un mois de 29 jours. C'est-à-dire, est-ce qu'on va décaler éventuellement le Rosh Chodesh ou pas? Par conséquent, Shavuot, qui était 50 jours après Pessah, Shavuot n'avait pas une date fixe puisque le calendrier était fixé par la décision du tribunal. Donc, Shavuot pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. On a l'habitude de dire que Shavuot, c'est le 6 Sivan, c'est au milieu. Il y a même des midrashim construits sur ce sixième jour-là, avec le fameux midrash sur Yom HaShishi. Donc ça, c'est une caractéristique de Shavuot, de ne pas avoir de date. Lors des trois fêtes en question, dans la prière, vous savez que on dit sur Pessah, quand on mentionne Pessah, on dit Pessah Zman Chérouténou. Pessah, le temps de notre libération. À Sukkot, on dit Sukkot Zman Simchaténou. Le temps de notre joie. Et à Shavuot, on dit Zeman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. Dans la Torah, il n'est nulle part marqué que la Torah nous a été donnée à Shavuot. Remarquez, non, la Torah du tout. C'est pas marqué dans la Torah quand la Torah nous a été donnée. La Torah orale va nous dire que la Torah nous a été donnée au Sinaï, ça on s'est écrit, mais la date, Hazal on dit, voilà, la date c'était le 6 Sivan. Donc c'est important de voir que la Torah n'a pas jugé bon de nous dire quand la Torah a été donnée. vous a laissé d'une certaine manière libre de le décider.
On est libre de décider la date de Shavuot
Oui.
au même titre que la fixation du début du mois.
Automatiquement, la fixation du début du mois va fixer Shavuot.
Et ce début du mois, il est aussi dépendant du témoignage, parce que à supposer que les témoins n'arrivent pas
Tout à fait. On a eu des problèmes parce que des fois les témoins sont arrivés très proches de la Shkia et donc il y a eu un problème. Normalement, il y avait des korbanot qu'on aurait dû apporter. Ils se sont trompés, les korbanot. Donc, à un moment donné, on a décidé que un certain temps avant la Shkia, on n'accepte plus les témoins. Ils sont là, ils disent, oh, on a vu la nouvelle lune. Restez dans votre coin, là. Ça sera demain, quand même. Même si vous l'avez vu aujourd'hui, c'est demain.
Ça veut dire que la présence du temps, elle dépend,
C'est nous qui décidons le temps.
en fait,
C'est
c'est
ça le
nous
grand chidouche de la Torah, que nous sommes les maîtres du temps.
qui on peut dire vraiment le maître du temps, mais on est là pour le mettre en position d'être compté. Ça veut dire
D'être.
on le met en fait dans notre conscience. En mettant un élément de comptage. C'est pas j'ai pas l'impression qu'on nous fait tout ça, on le fait descendre dans notre conscience. C'est nous qui décidons quel élément il devient
Toute notre
significatif.
relation avec le temps, c'est une relation de domination. D'une certaine manière, celui qui ne maîtrise pas son temps, c'est la caractéristique de l'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son temps. D'accord? Il est l'esclave, et lui, c'est lui du jardin. Et bon, il voit, demain, je m'occupe des rosiers. Le matin, il se lève, il veut m'occuper des rosiers. Son patron lui dit, son maître lui dit, non, aujourd'hui tu vas, je sais pas, tu vas, je sais pas quoi, laver la voiture. N'est pas maître de son temps, il peut pas. C'est ça. C'est pour ça, c'est le grand chidouche, si vous voulez, c'est qu'Hachem nous a donné cette mitzvah de maîtrise du temps alors que nous étions encore formellement esclaves de Paro. C'est-à-dire qu'on a été d'abord libérés. Dans l'idée on n'est plus esclave puisque notre temps nous appartient, avant même que formellement Paro nous ait libérés. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, à Soukhot, pardon, à Pessah et à Soukhot, il y a une notion qui s'appelle Atzeret. Le septième jour de Pessah, dans la Torah, il est appelé Atzeret. Le huitième jour de Sukkot, en vérité, ce n'est pas le huitième jour parce que Sukkot n'a que 7 jours, mais on l'appelle quand même Shmini Atzeret. Le huitième jour est une Atzeret de Sukkot. Atzeret, la racine d'Atzeret, ça veut dire stop, clôture, fermeture. Et donc, il y a une espèce de fête qui est faite à la fin de cette période, à la fin de la période des 7 jours de Pessah et à la fin de la période des 7 jours de Sukkot. La grande différence, c'est que à Pessah, la Hatseret, elle est à l'intérieur des 7 jours, puisque c'est le septième jour, alors que la Hatseret de Sukkot, elle est à l'extérieur, puisqu'elle est huitième jour. Elle n'est pas dans les 7 jours, elle est à l'extérieur. Cette Atzeret, c'est donc le lieu, c'est le moment d'une fête. Alors, il n'y a pas de Atzeret de Sukkot, puisque Sukkot ne dure en tout et pour tout qu'un seul jour. Mais les Chachamim, quand ils parlent de Sukkot, de Shavuot, ils n'utilisent pratiquement jamais le mot Shavuot. Et ils l'appellent, la fête de Shavuot, ils l'appellent Atzeret. C'est-à-dire que la fête de Sukkot, en elle, de Shavuot en elle-même, est vécue comme une Hatseret. La question qui se pose, bien sûr, c'est la Hatseret de quoi? On connaît la Hatseret de Pessah, la Hatseret de Sukkot. Shavuot, c'est la Hatseret de quoi? Les Chachamim qui savent bien le sens des choses et qui ont fait très attention d'appeler cette fête Hatseret, ils voulaient nous dire quelque chose. Alors, on ne peut pas dire que Shavuot, c'est la Hatseret de Pessah, puisque Pessah a une Hatseret qui est écrite dans la Torah, qui est le septième jour. On ne peut pas dire, puisqu'elle est encore, on ne peut pas dire de Shavuot que c'est la Hatseret de Sukkot, d'abord parce qu'elle est avant Sukkot dans l'ordre de l'année, et deuxièmement parce qu'il y a déjà une Hatseret de Sukkot. Alors, en réalité, ce que les Chachamim veulent nous dire, c'est que je vous avais dit qu'à Pessah, nous appelons la fête de les 7 jours en question, on appelle ça Pessah. Mais en réalité, ce n'est pas du tout correct d'appeler ça Pessah. Parce que le seul moment qui est Pessah, ça a un sens, Pessah. Pessah, ça correspond à Passah. Ça correspond au fait qu'Hachem a passé par-dessus les maisons d'Ebné Israël. Donc ça correspond à Makat Bechorot. Ça correspond à. Il y a un korban qui s'appelle Korban Pessah. Et le soir où on mange ce Korban Pessah, bon, qu'on appelle ça Pessah ce soir pendant toute la soirée, on comprend. C'est puis. Le centre de la soirée en question, c'est le Korban Pessah, on appelle ça Pessah. Disons qu'on peut encore comprendre qu'on appelle Pessah le premier jour de la fête, puisque le soir, elle s'appelle Pessah, alors disons toute la journée, ça s'appelle Pessah. Mais les autres jours, ils n'ont absolument rien à voir avec le Korban Pessah. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pendant ces autres jours? On mange des matzot. Et la fête en question, elle s'appelle Chag HaMatzot. Et alors, le septième jour, qui est une Hatseret, est la Hatseret de Chag HaMatzot. Mais les Chachamim ont compris qu'il fallait considérer Shavuot comme la Hatseret de Pessah. La Hatseret de ce premier jour de Pessah. Le jour est tellement important, il est une fête en soi, d'accord, et il a droit à une Hatseret, Hatseret qui est complètement en dehors du jour en question, et même à distance de ce jour en question, puisqu'elle est 50 jours après ce jour en question. Donc, Shavuot est Hatseret de Pessah. C'est-à-dire, c'est la Hatseret de ce que représente Pessah. Pessah, c'est, comme on a dit, la libération. Mais, si vous voulez, dans la notion de libération, on pourrait dire que être libéré, ça veut dire ne plus être esclave. On était esclave, on a été libéré, on n'est plus esclave. Mais en réalité, nous ne sommes pas sortis d'Égypte simplement pour ne plus être esclaves. Qu'est-ce que ça voulait dire sortir d'Égypte? Qu'est-ce que ça voulait dire de manger le Korban Pessah? C'était quoi le Pessah, le Korban Pessah qu'on a mangé? C'est l'idole égyptienne. C'est-à-dire, on a mangé ostensiblement. En provocation, on a mangé l'idole égyptienne. En d'autres termes, on a manifesté qu'on n'était plus idolâtre. On a fait tous ces gestes et malgré tout, au passage de la mer, les anges nous ont quand même considérés comme des idolâtres. Bon. Mais en tout cas, le Pessah, c'est une manifestation de coupure avec l'idolâtrie. dans les bras chauds du matin, Zot HaShachar, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani, alors, Shelo Asani Goy ou Nochri ou Oved Kochavim ou Mazalot, selon ce que les gens disent. C'est-à-dire, nous faisons une bracha dans laquelle nous, la plupart des gens disent, nous remercions Hachem de ne pas nous avoir fait idolâtres ou chrétiens, ou etc. Un remerciement. Ensuite, on fait un remerciement à Hachem. Shelo Asani, vous allez dire, Shelo Asani Shifra. Il n'a pas fait de moi une esclave. On remercie Hachem qui ne nous a pas fait esclave. Et ensuite, vous allez faire la bracha chez Asani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Et les hommes, eux, ils vont dire, Shelo Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme. Bon, si c'est des remerciements, bon, il faut les prendre comme tels. On a vu dans Nefesh HaChaim que Nefesh HaChaim a expliqué que le mot Baruch n'est pas un mot de remerciement. Que Baruch veut dire amplifier, multiplier. Ça veut dire que quand nous disons Baruch à Hachem, Shelo Asani Oved Kochavim, qui ne m'a pas fait Oved Kochavim, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'amplifier cela. On demande à Hachem d'amplifier ma condition de non-idolâtre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que il est très très difficile de ne pas être idolâtre. Quand on commence à regarder d'un peu plus près ce que ça veut dire être idolâtre, on s'aperçoit que c'est difficile, que d'une certaine manière, on n'en a jamais fini d'être idolâtre. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont mis une bénédiction tous les matins, dans laquelle nous demandons à Hachem, aide-moi à ne pas être idolâtre. On n'a pas dit à Hachem, aide-moi à être juif, mais aide-moi à cette condition de presque naturelle qui est d'être idolâtre. De la même manière, on demande à Hachem, aide-moi à ne pas être esclave, parce que être esclave, ça prend toutes sortes de formes et on est souvent esclave de beaucoup de choses. D'accord? À partir du moment où quelqu'un vit selon le regard des autres, il est esclave de ces autres gens. Ce n'est pas que les gens vont avoir un droit sur lui, mais de facto, ils ont un pouvoir sur lui, un pouvoir qu'il leur a donné. Et donc on demande à Hachem, aide-moi à m'arracher à ma condition d'esclave, enlève toutes les... Et quand les hommes disent, aide-moi à sortir de la condition de femme, les hommes, le problème des hommes, c'est que lorsqu'un garçon naît, alors comme tous les enfants, on va couper le cordon ombilical. Mais quand c'est un garçon, en fait, il coupe deux cordons ombilicaux. Il coupe le cordon ombilical physique et il coupe le cordon ombilical qui le rattache à sa mère. Parce que lui, il ne sera pas comme sa mère. Sa mère, c'est une femme et lui, il doit sortir des jupes de sa mère. Il y a des hommes qui ne sortent jamais des jupes de leur mère durant toute leur vie. C'est quoi alors les jupes de leur mère, c'est leur femme? Bon, c'est autre chose. Ils n'en sortent pas. Ils ne vivent pas. C'est difficile d'être homme. Biologiquement, on est d'abord féminin et ensuite apparaît la condition masculine. Et donc, ce que les hommes disent, c'est aide-moi à sortir de cette tendance qui est que je veux être comme ma maman parce que je viens de là-bas, je sors du ventre de ma mère et maintenant il faut que je coupe avec ma mère. Les femmes, elles n'ont pas ce problème-là. Elles coupent le cordon ombilical, mais elles restent du même côté, en quelque sorte, que leur mère. Donc, elles n'ont pas besoin de demander à Hachem de l'aide. Par contre, il y a une autre aide qu'elles demandent, qui est que on veut toujours ce que on n'a pas et ce que l'autre côté a. Donc, on demande à Hachem, aide-moi à être comme tu as voulu que je sois. Et pas que je veuille, aide-moi à sortir de cette envie, de cette tendance à vouloir aller de l'autre côté, mais l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. C'est ça les brakot.
Le fait que l'homme, nous en sommes du même, l'homme, depuis le départ, on le met en état de challenge, déjà d'être dans
Tout à fait, c'est ce que j'essaie de vous dire.
oui, mais je le vois comme positif, hein, jusqu'à présent, je voyais comme si l'homme avait besoin de
Comme ça, vous
quelque
n'êtes pas
chose.
venu pour rien, quoi.
Ben non, c'est bien. Non, je croyais qu'il demandait l'aide de Dieu, il a. Avoir un questionnement, c'est-à-dire de voir tout, comme on apprend après tout le long de la vie, tout ce qui nous arrive, c'est bon.
On dit pas que c'est pas bon. C'est bon, mais
Exactement.
c'est difficile. Et je
Tout à
comprends
fait.
bien que j'ai besoin de ce qu'on appelle nous siyata lishmaya, comme celui qui veut s'arrêter de fumer, il a besoin de siyata lishmaya, parce que s'il décide de s'arrêter de fumer et que tous les jours, quand il va au boulot, tout le monde lui offre une cigarette et il est dans un environnement de fumeurs, ça sera très difficile. Par contre, si Hachem lui donne l'idée, par exemple, de commencer à ne plus fumer pendant les vacances, il aura la durée des vacances pour s'habituer à ne pas fumer, et du coup, ça lui sera un peu plus facile quand il va retourner à son boulot, d'accord, puisqu'il a pris un peu d'habitude de ne pas fumer, de ne pas être dans un environnement de fumer, et donc, ça sera une certaine aide, et il aura besoin d'autres aides, c'est-à-dire que Hachem fasse en sorte qu'il ne soit pas piégé.
Mais l'homme, il est dans la même position que moi pour le dire.
Quoi?
L'homme, il ne dit pas cette phrase.
Qu'est-ce qu'il dit pas?
Personne.
Pardon?
Il ne dit pas cher à sa vie personne.
Ah non, parce que l'homme, en fait, il devrait dire deux brachot, il
Oui.
devrait dire celle-là. Bon, la Torah, elle a considéré que ça suffit
Déjà.
et que c'est peut-être plus essentiel de s'arracher à cette tendance, à cette appartenance à la femme, quoi, à sa mère. Il est quand même, il a comme, ça fait 9 mois qu'il habite dedans,
Essentiel.
qu'il est, et, cette, et ça va continuer. La mère, elle va continuer de le nourrir, de s'occuper de lui, etc., pendant assez longtemps, jusqu'au moment où et petit à petit, même dans cette période, il faudra qu'il apprenne à prendre de la distance.
Parce que là, pendant cette période, je vous parlais, pendant cette période, il y a comme une bataille intérieure entre il est homme, mais en même temps. Toujours en contact avec la femme, avec des éléments de la femme.
Oui, sûr.
Finalement, c'est une scission. C'est ça le bridge.
Ce que la Torah veut dire, c'est que comme on n'en a jamais fini avec ce problème, comme on n'a jamais fini avec le problème de l'esclavage, ni avec le problème de l'idolâtrie, on a besoin tout au long de sa vie de l'aide d'Hachem et la fonction de la prière, c'est de la demander, cette aide. Donc, en fait, ce que je voulais, ce que j'ai ramené ici, c'est pour dire que le problème de l'esclavage, de la sortie de l'esclavage, c'est pas simplement de ne pas être esclave. Et le seul moyen de ne pas être esclave, c'est d'être esclave. C'est-à-dire, le seul moyen de ne plus pouvoir être réduit en esclavage, c'est de pouvoir dire à celui qui voudrait me réduire en esclavage, je suis déjà esclave. Donc Hachem nous a sortis d'Égypte et il nous a pris comme ses esclaves, de telle sorte que nous puissions résister à tout autre esclavage en disant, j'appartiens déjà, j'ai déjà un maître, je ne peux pas accepter un autre maître. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu au moment de la sortie d'Égypte. Ça va prendre du temps, on va se construire, on va apprendre à faire cela, et quand on sera prêt, quand on aura vraiment bien compris, alors Hachem va nous prendre comme son peuple. C'est le, vous vous souvenez que on boit, on a bu 4 coupes de vin à Pessah, le soir du Seder, à cause de 4 expressions qui parlaient de la sortie d'Égypte. Et l'une d'entre elles, c'est que je vais vous prendre comme mon peuple. Alors, quand est-ce que nous sommes devenus le peuple d'Hachem? Pour être le peuple d'Hachem, il faut d'abord être un peuple. Quand est-ce que nous sommes devenus un peuple? Nous sommes devenus un peuple au pied du Sinaï. Vous savez bien que quand les fils d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont dirigés vers le Sinaï, ben, il y a eu des étapes. Et à ces étapes, la Torah, elle décrit la situation en disant, ils ont campé. Ce ils ont campé parle de la masse des gens qui sont sortis d'Égypte. Et au pluriel, parce qu'il n'y avait rien, en fait, qui les unisse vraiment à ce moment-là. C'est seulement quand ils ont été au pied du Sinaï que le texte porte Israël a campé, c'est-à-dire un singulier. C'est-à-dire à ce moment-là, ils étaient un peuple. Et donc on peut lire de deux manières, ou bien ils sont devenus un peuple pour pouvoir recevoir la Torah, ou alors ils sont un peuple parce qu'ils reçoivent la Torah. C'est la Torah qui fait d'eux un peuple. Alors, par exemple, Rav Sadia Gaon, 10e siècle, il dit que ce qui fait de nous un peuple, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre qui fasse de nous un peuple. Surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire nous sommes exilés, nous avons été exilés dans l'Empire romain entier. Et donc, le clan Israël s'est dispersé dans l'Empire romain. On est un peu partout. Quand on était esclave en Babylonie, on était esclave, on était exilés, mais on était tous au même endroit. Tout le monde était dans cette petite Babylonie. Mais à l'exil, ça c'est la suite de l'exil de Nabucodonosor. Mais l'exil des Romains nous a dispersés, nous a rendus esclaves et exilés dans l'Empire romain. Mais l'Empire romain était tellement vaste qu'on s'est complètement à la fois exilé, à la fois dispersé. Donc ça a complètement cassé le clan d'Israël. Donc, le clan d'Israël n'avait ni territoire, ni unité de territoire non plus, même si ce n'était pas le leur, ni Beth Amikdash. Et ils étaient dans des civilisations hostiles, en général idolâtres. C'était ça la condition des Bnei Israël. Quelque chose a changé peut-être maintenant, dans la mesure où il y a un pourcentage très important de gens qui habitent en terre d'Israël aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il y a 46%. Donc ça veut dire que en 2050 ou comme ça, il y aura la majorité. Certains disent qu'à la fin du siècle, il y aura 80%. Bon, ça, c'est les projections, on n'en sait rien si c'est vrai ou pas. Mais bon, c'est ça les projections que j'ai entendues. Donc ça peut faire quelque chose de nouveau, parce que ça peut faire qu'il va y avoir des générations où on est déjà deuxième, troisième, quatrième génération de gens qui sont nés en Eretz Israël et qui, de ce fait-là, ont des racines en Israël. Le peuple juif est un peuple essentiellement nomade parce qu'il n'a de racines nulle part. Nos racines théoriques, imaginaires, etc., elles sont toujours en Israël, mais on n'a pas de racines concrètes en Israël. Par contre, peut-être qu'une grande partie du clan d'Israël va avoir, au bout d'un certain temps, des racines avec la terre en question. Et ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer complètement le clan d'Israël d'avoir des racines avec cette terre. Bon, mais ça, c'est des élucubrations, je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à Shavuot, il y a un travail intérieur pour se libérer vraiment. Au-delà de la libération qui fait de nous des gens qui ne sont plus formellement esclaves, mais qui sont pas vraiment, ils ont encore une mentalité d'esclave. Bon, c'est des gens qui, durant tous ces jours-là, ces fameux 50 jours, ils n'arrêtent pas de dire on va retourner en Égypte. D'accord? Comment penser que des gens puissent vouloir retourner en Égypte?
C'est quoi la différence entre les deux lectures? Ils sont deux.
Ça veut dire, est-ce que c'est une préparation pour la Torah ou est-ce que c'est la résultante du fait qu'on a reçu la Torah? Si on dit que c'est une préparation, ça veut dire qu'on est devenu un peuple pour d'autres raisons, enfin, pour pouvoir recevoir la Torah, parce que la Torah n'a jamais été donnée aux individus, elle a toujours été donnée au clan Israël. Du clan Israël, après les gens qui appartiennent au clan vont recevoir la Torah, mais la Torah a été donnée au clan Israël. D'accord? Les 613 mitzvot, elles ne sont pas faisables par aucun individu. Personne ne peut faire les 613 mitzvot. Pas parce qu'on est en galoute, etc., mais parce que il n'y a pas 613 mitzvot qui s'adressent à la même personne. Il y a des mitzvot pour hommes, des mitzvot pour femmes, il y a des mitzvot pour kohanim, pour non-kohanim, des gens qui ont un champ, des gens qui n'ont pas de champ, des gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas en bonne santé, ben, il y a à peu près tout, quoi.
Et la condition pour recevoir la Torah, c'est bien d'être un peuple.
Comment le?
La condition pour recevoir la Torah, c'est d'être un peuple.
Oui, alors peut-être que on peut voir ça comme condition pour recevoir la Torah, ou alors c'est pas possible de devenir un peuple si on n'a pas quelque chose, et c'est le fait que la Torah, que nous ayons accepté la Torah, qui va faire de nous un peuple. Parce que c'est quoi le lien entre nous? Nous n'avons pas de lien. Qu'est-ce qu'un juif finlandais fait avec un juif yéménite? Il n'a rien de commun avec lui, il ne mange pas de la même manière, il ne s'habille pas de la même manière, il n'a pas des relations homme-femme de la même manière, etc. Sauf qu'il a la Torah. On a la même Torah. Et c'est tout. Le reste, bon, à part ça, c'est des êtres humains, mais bon, il y en a pas mal. Et donc, en fait, Pessah, c'est la naissance d'Israël. C'est la naissance aussi d'un peuple qui naît à la liberté, mais il n'a pas du tout encore accédé à la vraie liberté. Et donc, on mange à Pessah de la matzah. C'est quelque chose de simple. Et ça symbolise aussi la passivité. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, mais ils n'ont rien fait pour. Normalement, la matzah, c'est l'absence d'ego. Il n'y a pas de, ça gonfle pas, quelque part. Il y a une révélation divine qui s'est faite à Pessah. Israël va sortir d'Égypte pratiquement comme un nourrisson. La Gemara dit, et c'est répété dans la, on l'a dit dans la Haggadah de Pessah, que le peuple était nu de mitzvot, arum, de mitzvot. Ils ont été libérés sans mérite, à tel point qu'il a fallu qu'Hachem leur donne presque artificiellement deux mérites, c'est-à-dire Pessah et Mila, pour qu'ils puissent justifier que on les sort d'Égypte. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont de... Sinon, pourquoi on les sort? Et c'est ce qu'on appelle Itaruta de l'Eila. Itaruta, ça veut dire éveil. De l'Eila, un éveil d'en haut. C'est-à-dire, la libération des Bnei Israël n'est pas venue de l'initiative des Bnei Israël. Hachem a décidé de les libérer. Il a décidé ça parce qu'il l'avait promis à Avraham Avinu. Ensuite, durant la période entre Pessah et Shavuot, il va falloir une transformation des hommes, des êtres humains-là. Ces 40 jours, 49 jours, c'est un travail de purification, un travail de maturation, d'intériorisation. Alors, remarquez que vous savez probablement que les Bnei Israël en Égypte, ils étaient au 39, au 49e degré d'impureté, à moins 49 si vous voulez. Et au Sinaï, quand ils ont reçu la Torah, ils étaient à plus 49. Mais pour passer de moins 49 à plus 49, il faut plus que 49 jours. Donc ça veut dire que chaque jour qui a passé, on a dû faire deux choses. Il a fallu, d'une part, sortir d'Égypte et d'autre part, se préparer à recevoir la Torah. Il a fallu remonter du négatif, encore 49, 48, 47, etc. Et puis construire les niveaux supérieurs. En même temps, c'est-à-dire, on est passé de recevoir une liberté qui ne serait éventuellement que le contraire de l'esclavage et devenir capable de porter cette liberté, en fait, donc de construire avec la Torah, cette liberté, puisque Chachamim vont nous enseigner que la Torah, qui était représentée par les louchot, par les tables, ces tables-là, elles étaient gravées. Gravées, en hébreu, ça se dit charout. C'est le même mot que chérout, qui veut dire liberté. Et du coup, Chazal ont dit, En chérout, ela acharout ala louchot. Il n'y a de liberté qu'avec ce qui est gravé dans les, sur les louchot, sur les tables. Donc je vous ai dit, bien sûr, on parle des tables. C'est deux tables, deux tablettes de 60 par 60, à peu près. carré, pas du tout comme on représente ça, comme un truc avec deux étapes. Alors, au Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que d'abord Hachem a parlé avec les hommes. Il leur a parlé directement. Mais ils ont demandé d'arrêter parce que c'était trop bouleversant. Ils ont demandé qu'Hachem parle avec Moshe et que ce soit Moshe qui leur parle. Donc malheureusement, si vous voulez, d'une certaine façon, nous n'avons pas entendu les 10 paroles directement d'Hachem. Si on avait entendu, il semble que l'histoire aurait été terminée, tout était parfait. Alors, comme on l'a dit, déjà, ces tables, ce qui est écrit sur les tables, c'est 10 phrases qui sont tellement puissantes qu'on peut, comme je vous ai dit, on peut faire un travail de rattacher les 613 mitzvot à ces 10 paroles-là. C'est un travail qui a été fait par Rav Sadia Gaon, justement. Donc ça, c'est ce qui se fait la transformation des Juifs durant ces 49 jours. Et quand il arrive à Shavuot, alors les hommes vont entrer dans la Torah. Ou ils vont faire entrer la Torah en eux, ou ils vont entrer dans la Torah. Et à ce moment-là, à Shavuot, c'est mon sujet, apparaît, tout à coup, apparaît le Hametz. Or, le Hametz, ça symbolise le Yetzer Hara, ça symbolise l'ego, ça gonfle. Ça symbolise la complexité humaine, la fermentation du monde, en fait. Donc, les jetés Alechem, les 2 pains en question, nous montrent que la Torah n'a pas été donnée à des anges. Elle a été donnée à un homme réel. C'est ça la grande révolution de Shavuot. Le fait que la Torah n'a pas été donnée aux anges, vous connaissez, la Gemara, elle rapporte que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prendre, recevoir justement les louchot qu'Hachem avait gravées, les anges ont dit, Baal Ilodisha, qu'est-ce que cet être né d'une femme fait parmi nous? Bon, je ne sais pas si on va pas parler de la misogynie des anges, en quelque sorte, mais bon, ce n'est pas notre sujet, donc on n'en parlera pas. Mais en tout cas, ils ont dit, ben, la Torah, elle est chez nous, elle doit rester chez nous, on ne va pas la donner aux êtres humains. Alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Alors Moshe a répondu, leur a dit, la première phrase qui est gravée sur la première table, c'est Anochi Hachem Elokecha, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il a demandé aux anges, est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous étiez esclave en Égypte? Est-ce que vous êtes sorti d'Égypte? Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez un père, une mère que vous devez honorer? Bon. Donc, il leur a montré que la Torah, elle concerne des êtres humains avec leurs faiblesses, avec leurs caractéristiques, et pas les hommes.
Pourquoi ils ont annulé? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Parce que
Oui, mais eux, ils pensaient que c'est la parole divine, c'est quelque chose qui est entièrement d'origine divine, ça reste chez nous. Alors, voilà. Normalement, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux pains? La démonstration, elle était faite si on avait un seul pain aussi. Oh, pas besoin de deux pains. Pourquoi il y a deux pains? Pardon?
s'arracher.
Alors, on peut dire effectivement que. Alors, on pourrait le dire comme ça. On peut aussi dire que, si vous voulez, il y a un pain qui met en avant le côté divin et un pain qui met en avant le côté humain. C'est-à-dire que vous avez le divin contre l'humain, enfin, en face, la Torah d'en haut, la Torah d'en bas, la vérité absolue, la perception humaine, le ciel, la terre. Donc, Matan Torah n'est pas seulement une descente de la Torah, que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah. C'est la rencontre entre deux réalités. La Torah écrite, toute seule, n'est pas du tout l'objectif. Il faut une Torah qui est orale, qui est étudiée, qui est discutée, qui est interprétée, qui est vécue. Donc, Shavuot, c'est bien une fête plutôt presque de la Torah orale qui est la condition sine qua non pour pouvoir même lire la Torah écrite. On a déjà beaucoup parlé de ça. Donc, les deux pains, bon, ça correspond aussi aux deux tables. Vous savez bien que dans une table, vous avez les relations verticales et dans la deuxième table, les relations horizontale. Alors maintenant, la question qui reste encore à poser, c'est le Hametz qui est offert, c'est une offrande. Pourquoi offrir du Hametz à ce moment précis? Justement, parce que en réalité, le Shavuot révèle quelque chose d'extraordinaire. Au Sinaï, Hachem n'a pas demandé à l'homme efface ton ego. Mais il a dit intègre ton ego dans la Torah. Donc le message donc des deux pains, c'est le Yetzer Hara peut entrer dans le temple, dans le Beth Amikdash, et l'ego peut devenir saint. Il faut le mettre au service de la sainteté. Donc le monde matériel peut devenir Torah. C'est la naissance de la Kedusha dans un monde réel. Normalement, quand on apporte une offrande végétale, vous savez comment ça se passait. D'accord, on fabriquait la pâte en question, et puis on prenait dans la pâte, on prenait un petit peu de pâte, qu'on prenait avec ces trois doigts-là, ça, ce qu'on peut avoir sous les trois doigts. On va araser avec le pouce et avec l'auriculaire, de telle sorte que il y a ce qui est contenu dans les trois doigts et c'est ara des deux côtés. Exactement. C'est un travail, c'est très difficile de le faire pour qu'il n'y reste pas une petite queue en quelque sorte. Vous qui manipulez de la pâte, vous savez très bien que si vous le faites comme ça, il va rester. Un petit peu. Mais bon, il y avait une technique pour le faire. Il y avait des familles qui étaient spécialisées là-dedans et qui gardaient ça comme un grand secret. Ils auraient pu le faire breveter, ils l'ont breveté, mais donc, et puis, cette petite partie-là, de la pâte en question, on la mettait sur le misbéhar, sur l'autel, et c'était brûlé pour assez. Mais tout le reste de la crêpe en question était mangé par les Kohanim.
C'est ça, c'est la de la.
Donc ça, c'est autre chose. C'est un peu la même chose, mais la challah, c'est plutôt la trouma.
C'est le même principe, on enlève un morceau pour
On
faire
enlève,
quoi?
mais on ne met pas. Nous, on le brûle parce qu'on peut, c'est pas donné. Normalement, on donne à manger au Cohen.
Ah oui, mais j'ai tout le monde à faire, mettre un morceau, c'est pour ça.
Non, on était obligé de. Nous, on peut, comme on n'a pas de Kohanim et on n'est pas en état de pureté pour pouvoir prélever cette trouma, donc on ne peut pas le donner. Maintenant, c'est dangereux, personne ne peut le manger, donc on la brûle. Alors, normalement, c'est offert et puis ensuite mangé par les Kohanim. Donc, les korbanot qui sont brûlés montent vers Hachem. La partie qui est brûlée monte vers Hachem. C'est consumé, ça monte vers Hachem. Mais les pains en question, ils descendent vers l'homme. Eux, ils sont consommés par les Kohanim. Donc, ça veut dire, à Pessah, Dieu agit, Hachem agit, et l'homme est passif. Mais à Shavuot, Hachem évidemment agit, mais l'homme aussi. Et du coup, la Torah devient intériorisation, transformation du corps, peut-être digestion, quand il mange. Donc, on peut essayer de répondre à la question de départ, qui était, c'est quoi le lien entre Matan Torah et les deux pains en question. On peut dire que les deux pains en question, ils annoncent que le Matan Torah, c'est la fin de la sortie d'Égypte. C'est l'entrée de l'homme, d'un homme imparfait, dans la Kedusha. C'est l'union de on dit ça assez systématiquement sur le Mishkan, c'est l'union du ciel et de la terre. D'une certaine manière, c'est une naissance de la Torah orale et puis une sanctification possible du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'ils sont apportés uniquement à Shavuot. Parce que Shavuot, ce n'est pas la fête de la Torah donnée, mais c'est la fête de la Torah qui est devenue humaine. La Torah, elle existait avant la création du monde. C'était une suite de noms divins. Et maintenant, ça devient en fait une loi, un mode de vie pour les hommes, pour les êtres humains.
Cette compréhension de la Torah, elle suppose la route de fatalité.
Le prêt à égal n'a pas encore eu lieu. Le prêt à égal, il va avoir lieu 40 jours plus tard.
Bon, mais là, ce qu'on est en train de dire, est-ce que ça ne suppose pas qu'on est déjà dans une logique
Ça veut dire que le problème, c'est Matan Torah pour nous. Nous, on est après le Hegel, évidemment. Donc, et c'est nous qui apportons le Shtéa Lechem. C'est pas. Les Israël, ils ne sont pas allés au Sinaï en apportant le Shtéa Lechem. Alors, il y a une question qui est sur le. On a dit que pour Shavuot, on dit que c'est Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais en fait, il me semble que la terminologie Matan Torah est une terminologie inadéquate. Parce que nous, on n'est pas du côté du don de la Torah. Nous sommes du côté de la réception de la Torah. Donc, on devrait dire Sman Kabbalat Toratenu. Pas Sman Matan Toratenu. OK? Alors, la réponse que je me donne à cette question, il y a peut-être des gens qui considèrent qu'il n'y a même pas de question. Que le mot matan veut dire, c'est tout le processus. Bon, j'aime pas ce genre de réponse parce que je préfère essayer de trouver une réponse qui colle un peu vraiment au texte. Il me semble que matan, ça veut pas dire Kabbalah. Et on peut essayer d'expliquer de la manière suivante. Vous vous souvenez, ça c'est quelque chose que j'ai enseigné, que les Bnei Israël avaient reçu comme ordre pour se préparer à la réception de la Torah de se purifier. Et l'ordre d'Hachem, c'était purifiez-vous, ayom ou machar, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je donnerai la Torah. Ayom ou machar. Et Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, sans rien demander à Hachem, il a ajouté un jour supplémentaire de purification. Au lieu que ce soit Ayom ou Machar, c'est Ayom ou Machar ou Machataï. Alors, premièrement, il s'agit d'essayer de comprendre ce que Moshe Rabbeinu a fait, parce que si Hachem a dit qu'on était pur après deux jours, qu'est-ce qu'il s'agit d'être super pur, je ne sais pas quoi. Ça existe dans la publicité pour Persil qui lave plus blanc, mais a priori, on va se purifier, de se purifier encore plus. Donc, c'est visiblement pas de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait? Alors, je le répète, je pense que vous le connaissez, la réponse, c'est que il avait dit la chose suivante. Quand vous donnez à quelqu'un un cadeau, le cadeau que vous lui donnez, supposez que vous avez donné un cadeau qu'on peut donner dans différentes circonstances. On peut donner ce cadeau comme un cadeau de mariage, on peut le donner comme cadeau de pose la crémaillère, c'est-à-dire on entre dans un nouvel appartement ou à une occasion, on peut même le donner pas même à la Mila, on le donne aux parents, etc. Évidemment que ce même objet que vous donnez en cadeau, il aura une valeur différente selon le moment où vous l'avez donné. Alors les gens vont le voir, c'est un cadeau de mariage, c'est un cadeau de fiançailles, c'est un cadeau de nouvel appartement, etc. Et par conséquent, quand ils vont réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau-là, bon, ben, ils vont tenir compte justement du moment où vous l'avez donné. Et donc fixer le moment du don d'un cadeau, c'est collaborer au don du cadeau. Bon, ça veut dire il y a l'objet qu'on va donner en cadeau, qu'on est allé acheter ou qu'on a fabriqué, et puis il y a le moment où on l'a donné. Ça forme le tout du don. Le don est constitué de ces deux choses-là. Mon cher Abinou, il ne voulait pas que les Bnei Israël à Shavuot soient encore à Matan Torah, soient encore dans cet état de passivité qui était le leur au moment de la sortie d'Égypte. Mais comment ne pas être passif quand on vous donne la Torah? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va se mettre dans la bonne posture pour pouvoir recevoir. Quelque part, on va se purifier pour recevoir. OK, mais ça, on pouvait le faire en 2 jours. À Yom Umaha, Hachem a dit que c'est comme ça. Donc, on n'a pas besoin de plus. Et par conséquent, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour. Alors, Moshe Rabbeinu, il a inventé cette idée que si nous décidons quand la Torah sera donnée, alors nous serons aussi du côté du don. D'accord? Puisque celui qui décide de l'occasion ou du moment où la chose est donnée participe au don. Et donc, de ce fait, les Bnei Israël, à Matan Torah, ils étaient à la fois dans la Kabbalat Torah, mais aussi dans la Netinat Torah, dans le Matan Torah. Donc, c'est Matan Torah Tenu, parce que la Torah, elle a été donnée au moment où nous avons décidé. Bon, c'est incroyable, quoi. Hachem a dit, je vous donne le cadeau dans 3 jours. Et Moshe Rabbeinu a dit, oh, ben, nous, ça ne convient pas vraiment. Tu pourrais revenir demain, peut-être. Bon, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Mais il l'a fait pour installer les Bnei Israël du côté de l'activité qui sont des donneurs de Torah. Donc, dans l'idée, ça veut dire, d'une certaine manière, nous nous sommes donné aussi la Torah qu'Hachem nous a donnée. Nous aussi, nous sommes du côté du don. Et il me semble que c'était quelque chose de fondamental pour distinguer Shavuot de Pessah. C'est-à-dire, et c'est ça l'idée, c'est que la Torah, c'est vrai qu'elle nous est imposée, mais quelque part, nous nous la sommes imposée aussi. Ça, c'est fondamental. C'est très important d'avoir quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire.
On ne peut pas se mettre à égalité avec la chaîne, tu me donnes, je te dis pas.
Oui. Ce n'est pas vraiment avec égalité. Mais si vous voulez, ça c'est la choute-foute, c'est l'association qu'Hachem veut. Que l'homme s'associe à lui pour faire jouer le rôle d'Hachem, quelque part. Ça veut dire, je vous ai déjà dit, par exemple, justement, puisqu'on n'a pas parlé de la fixation des mois, la fête de Pessah ou la fête de Sukkot ont lieu, ou Rosh Hashanah ou Kippour, ont lieu à des dates fixes. C'est appelé des Moadim. Moadim, ce sont des rendez-vous avec Hachem. Et ce rendez-vous avec Hachem, a priori, c'est Hachem qui nous le donne. Hachem dit, vous rendez-vous le 15 Nissan, rendez-vous le 15 Tishri, rendez-vous le 10 Tishri. Bon, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce que, étant donné que c'est nous qui fixons, c'est le 10 Tishri, mais c'est nous qui allons dire quand va tomber le 10 Tishri, puisque c'est nous qui fixons le premier Tishri.
Entre que mon cher a initié à ce moment-là et notre façon de fixer le temps qui dépend de
Oui. Ça, c'est Hachem qui l'a prescrit, tandis que là, c'est l'initiative de Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, Asher Korhara, de même qu'il lui a dit, Asher Korhara, d'avoir brisé les premières tables. Hachem, a posteriori, il lui a dit, tu as bien fait. Mais il fallait oser faire une chose pareille.
quand on fixe le temps du mois, là aussi on a une marge de...
Oui, non, mais ça, c'est prescrit par la Torah.
Ça,
La Torah dit à Chodesh Hazeh, Lachem, c'est pour vous.
alors que là,
Alors ici, Hachem avait dit,
Ah.
moi je donne la Torah le troisième jour, et Moshe Rabbeinu nous dit non, troisième jour, non, ça va pas, ça nous convient pas, le quatrième jour. Pourquoi? Pour que nous soyons du côté du don. C'est le côté absolument génial, bon, c'est comme toujours génial, de ce que fait Moshe Rabbeinu pour le clan d'Israël. Donc, ça donne un tout autre sens à cette fameuse Kabbalat HaTorah. C'est pas, c'est vrai que Hachem nous a obligés, etc., d'accepter la Torah orale, etc., qu'on n'avait pas envie, il a retourné la montagne sur nous, etc. Oui, mais la date en question, c'est nous. Et donc, tous les rendez-vous qu'on a avec Hachem, on est associés à Hachem. Hachem dit, ça sera le 15, et nous on dit, oui, mais c'est moi qui dirai qu'on sera le 15. C'est génial, non? Voilà. Bonsoir.
Bonsoir, merci à votre chaîne.
Et Shabbat Shalom.
Shabbat shalom.